Chapitre 6 Le complot. Durant la semaine qui suivit la victoire de Goelmordax, une vive effervescence avait régné à Marseille. Les concurrents malheureux et mécontents étaient nombreux et criaient à l'injustice sur tous les tons. Chaque jour, c'était des meetings de protestation où la police était obligée d'intervenir. Les inventeurs maniaques étaient presque tous devenus fous furieux et les maisons de santé regorgeaient de pensionnaires de toutes les nations. Ceux qui avaient tenté l'appât des 5 millions de primes et qui avaient dépensé leurs derniers sous pour venir à Marseille ne savaient comment regagner leur pays. Purselstroem, aussi prévoyant que généreux, avait pourtant mis à la disposition de la municipalité de Marseille une somme considérable pour couvrir les frais de rapatriement de ces pauvres diables. Mais les uns avaient dédaigneusement refusé la somme qu'on leur offrait et qu'ils considéraient comme une aumône. Les autres avaient accepté sans scrupule, mais étaient demeurés à Marseille où ils dépensaient l'argent en orgies, les autres en brochures injurieuses pour Selström et Goelmordax. Le plus mécontent de tous était Tony Fowler. Le succès de son ancien camarade d'études lui restait sur le cœur. Il ruminait des projets de vengeance. Il englobait dans sa haine Ursenström et Goel Edda et même M. Le Pic. Fils d'un milliardaire américain qui avait gagné sa fortune dans le trust des aciers, Tony Fowler avait caressé l'espoir de joindre les millions d'Edda à sa propre fortune et de devenir ainsi l'homme le plus riche de la terre entière. Obligé de renoncer à cette chimère, il en voulait aux ingénieurs de son père, qui n'avaient pas su construire le sous-marin idéal. Il regrettait l'argent qu'il leur avait donné, et songeant à son insuccès, il pleurait de rage. Sa haine contre Gaël était d'autant plus violente que le fiancé d'Edda l'avait empêché de se suicider dans un moment où le désespoir l'avait rendu fou. Ah, tu as eu pitié de moi, songeait-il. Tu verras ce qu'il t'en coûtera, breton maudit. Quand il avait vu son rival s'éloigner à bord de l'étoile polaire, il avait éprouvé un horrible serrement de cœur. Il lui semblait que le yacht qui emportait la jeune fille emportait en même temps quelque chose de lui-même. En dépit des lettres de son père qui le pressaient de revenir en Amérique, Tony Fowler ne pouvait se décider à quitter Marseille. Il écrivit à son père qu'il ne rentrerait pas chez lui avant d'avoir vu manœuvrer le sous-marin de Goelmordax. Il suivait anxieusement les nouvelles que chaque jour donnaient les journaux sur ce sujet d'actualité. Comme tout le monde, il s'étonnait que les puissances européennes ne se fussent pas opposées à la construction d'un sous-marin idéal. Mais il eut bientôt l'explication de cette anomalie. Ursenström était soutenu par toutes les ligues en faveur de la paix. L'Amérique elle-même le protégeait occultement, et la plupart des chancelleries regardaient d'un œil favorable la tentative d'Ursenström, bien déterminées chacune pour son compte, à travailler ferme le Norvégien pour détourner l'invention de Gaël à leur profit. Un soir, Tony Fowler, en se promenant sur le port, croisa un individu en qui il eut fait de reconnaître un compatriote. L'inconnu salua le jeune homme avec respect. « Bonjour, monsieur Fowler. » Tony le dévisagea. La physionomie du nouveau venu lui était inconnue. Ah, « je comprends que vous ne me reconnaissiez pas. Je m'appelle Robert Knipp et j'ai été employé autrefois dans les ateliers de votre père en Amérique. »« Ah, vous avez travaillé chez mon père, » fit Tony. « Et maintenant, que faites-vous ?»« Bien récemment, j'étais contremaître dans les chantiers de Goelmordax. J'ai assisté au lancement de Jules Verne, comme on l'appelle. Alors, vous devez connaître à fond ce merveilleux appareil. Non, nullement. Chacun travaillait à une pièce détachée, Et l'assemblage. Et Robert Nick s'interrompit, fit un geste et sourit ironiquement. Et pourquoi me demandez-vous cela ? Continua-t-il. Non, je vous comprends, reprit Tony Fowler. Vous voulez être payé.
Oui,
fit brusquement Robert Knipp. Et pourrais-je compter sur votre dévouement ? Cela dépendra du prix. Pendant quelques instants, les deux hommes s'entretinrent à voix basse. Suivez-moi, dit enfin Robert Knipp. Où cela ? Suivez-moi, vous dis-je, et vous serez satisfait. Robert Knipp entraîna son compagnon à travers le dédale des ruelles obscures et puantes du vieux port. Enfin, il pénétra dans un cabaret d'apparence sinistre où une dizaine d'anglo-saxons, ceux-là même qui avaient été employés par Rudolf Steim, chantaient, jouaient aux cartes et fumaient en lampant des flips variés. L'ex-contremaître s'entretint à voix basse avec chacun de ses camarades, et quelques minutes plus tard, après une dernière conférence avec Tony Fowler, celui-ci leur faisait une distribution de dollars. C'est entendu, dit-il en accompagnant Tony Fowler jusqu'à la porte. Tous seront exacts au rendez-vous. Les deux hommes se serrèrent la main, et Tony Fowler regagna son hôtel en souriant énigmatiquement.